Dans le tempo, c'est l'épisode 27 et ça commence juste après le générique.
Je suis subjugué à chaque fois par cette énergie que tu déploies pour lancer l'émission. Comment ça va, Salman ?
Bah écoute, très bien, Daz.
Ouais ?
Ouais.
La canicule, ça s'est bien passé ?
C'était un peu dur, hein, les 40 degrés à Paris, là.
Seulement 39 à Maison Alfort.
Voilà, le mec nous vend encore Maison Alfort.
La ville où il fait bon vivre. Et ça tombe bien qu'on parle de Maison Alfort,
oui.
Puisque nous recevons un illustre habitant de cette ville depuis MC Solar.
Est-ce qu'on peut dire que c'est la star de Maison Alfort ?
Bien avant
MC Solar.
Arrêtez, là, j'avais déjà 10-11 ans.
Ouais.
D'ailleurs, MC Solar qui vient de Villeneuve-Saint-Georges.
Oui, des quartiers nord.
Il a hardcore. Il a cité Maison Alfort. Et on le remercie.
Ben
mais
oui.
Il ne vient pas de Maison Alfort.
Non, mais les connaisseurs connaissent, bien sûr. Ce n'est qu'un touriste.
On part sur une émission sous le signe de Maison Alfort, c'est ça
qu'on... Sous le signe de MC Solar aussi.
MC Solar aussi.
Sous le signe, bien sûr, de l'indépendance, de l'underground, détourné. Exotique.
c'est le bon terme, exotique.
Des ambiances mafieuses et de la drogue en cascade, parce qu'on reçoit JB Anak avec nous.
Merci
aujourd'hui.
De nous recevoir, les amis.
Ben, c'est un plaisir, c'est un plaisir.
C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. En tant que habitant de Maison Alfort et possesseur de PC Engine, tu sais que tu as complètement ta place ici, même si Salman ne comprend pas.
Mais je respecte Maison Alfort, hein. Je sais pas si j'ai envie d'y vivre, mais je respecte. Mais je vais peut-être présenter quand même JB,
ouais.
Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, JB, mm-hmm. Honte à eux, mais c'est pas grave, tu vois.
Non, arrête.
Non, JB Anak, donc tu es musicien. Tu as notamment participé à un groupe qui s'appelait D-Damage.
Tout à fait.
Qui est formé en 2000, vous avez... ouais, je sais pas, 6-7 albums à votre actif.
On a fait 8 albums.
8 albums même.
Et puis après, bon, des EP, des maxi, des bandes originales de films. Mais 8 albums à la discographie.
On va dire que vous commencez vraiment à avoir un petit aura en 2004.
2004.
Avec, c'est quoi, c'est le quatrième album ?
2004, c'est notre troisième album.
C'est le troisième.
Ouais. Radio Ape, qui d'ailleurs vient d'être réédité là, il n'y a pas longtemps. Chez ICI d'ailleurs en France. Mais à l'époque, on l'avait sorti chez Planète Mu en Angleterre. Ouais. Qui était à l'époque dans la galaxie des labels comme Warp, Reflex, Schématique, enfin bon, ce qu'on appelait l'IDM, et c'était la révolution à l'époque, la révolution de la musique électronique qui sortait de 10 ou 15 années de rave, de techno dur, et vraiment l'IDM, c'est le premier renouveau de la musique électro-populaire. Mmh. Et là, en l'occurrence, D-Damage, premier groupe français à signer chez Planète Mu, donc bon, on avait déjà sorti 2 albums avant sur des labels indés complètement pétés, mais vraiment, genre, Inconnu Bataillon, on se retrouve à être les premiers Français à signer là-bas. Et là, pour le coup, bah, c'est là qu'on a percé le plafond, quoi. But she don't believe me. I probably could have been if I never met Evie. She make me feel all fuzzy inside, it's loco. You won't get nowhere nearer if you're broke though. Sweat dripping on a mission, the filthy quest. Tribe called test. Everybody bounce with a dirty ounce. Weed down, security can't get kicked out. Never put the split down, never put the weed out. Don't ask me twice, I won't turn the joint down. Never put the split down, never put the weed out. Don't ask me twice, I won't put the joint down. Ce que je te propose, c'est on va commencer le podcast avec une première partie. On parlera quand même un peu de D-Damage avant de parler d'une des raisons pour lesquelles on te reçoit, c'est ce livre. Mm-hmm. Mais juste pour compléter un peu, donc dans D-Damage, belle carrière, 18 ans de carrière à peu 18
près.
Ans de carrière.
Ouais. Des tournées un peu dans le monde entier, mine de rien. Alors certes dans le milieu underground, mais avec une vraie reconnaissance du milieu underground. Ouais. Vous avez marqué une scène, quoi. Et puis à côté de toi, en parallèle, t'as eu une carrière solo sous le nom de Didache, t'as fait plein de choses, t'as sorti un album avec Pierre Richard, t'as fait une BO avec un film de dans lequel il y a Brigitte Lahaie.
Un
film érotique.
Un film de cul.
Ah ouais,
un film érotique.
Érotique, plus, non, c'était...
Moi, j'appelle ça du porno chic.
Du porno chic, ok. C'était un accomplissement
de... Il y a des dorures.
Un accomplissement pour l'exercice et un accomplissement dans le sens où c'est un film avec Brigitte Lahaie en premier
c'était
rôle.
C'était son grand retour, en plus.
Ouais, ce qui n'est pas rien, quoi, tu vois, j'avais vraiment l'impression de... de faire la BO du film du retour de Jean-Claude Van Damme qui a pas fait de combat depuis 10 ans, tu vois. C'est tout à fait comparable. Hein.
C'est vrai, absolument.
Non, je me souviens vraiment, et j'étais hyper ému hein, quand j'ai... Ça m'arrive souvent quand je fais, si cela m'est permis, quand je fais la bande originale d'un film, je demande toujours à la personne qui réalise s'il m'est possible de venir sur le plateau. Pas tous les jours, mais au moins de venir une fois sur le plateau pour voir un petit peu l'ambiance du tournage, ce qui s'en dégage, etc., etc. Mmh. Voilà, je suis arrivé dans un appartement bourgeois parisien et j'ai vu sur un canapé rococo Brigitte Lahaie en peignoir de satin violet. Ça m'a fait là, quelque
des
chose.
Des flashs, des mémoires qui te revenaient.
Bah ouais, et puis surtout qu'elle elle savait qui je suis, donc je rentre dans la pièce, elle me regarde et en fait elle m'attendait pour qu'on ait une discussion, on est juste là pour faire connaissance, j'ai parlé 5 minutes avec elle, tu vois. Après nous avons mieux fait connaissance, mais là ces premières 5 minutes c'était magique. La première chose que je lui ai dit c'est madame, je tiens à vous transmettre un message, ma maman m'a demandé de vous dire qu'elle aime beaucoup ce que vous faites. Et Brigitte Lahaie m'a répondu ah ben on l'avait jamais fait ça.
Écoute, t'as marqué Brigitte Lahaie en tout cas.
Elle m'a marqué également, c'est réciproque.
Ouais, on peut pas citer tout ce que t'as fait parce que t'as fait d'autres BO aussi, t'as même été musicien au sein de Cobra. L'excellent groupe Cobra à écouter. Et puis en parallèle tu t'adonnes aussi aux arts graphiques, tu fais des expositions régulières, vraiment. T'as une carrière extrêmement riche, super variée, un peu bizarre honnêtement. Enfin, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens. Ouais. Et en même temps, il y a un truc, bah, il y a toi quoi, au milieu de tout ça, ça te ressemble. Mm. Un peu cette hyperactivité, c'est ce désir de faire plein de choses et de s'intéresser à plein d'univers différents. Et notamment, tu as ajouté encore une nouvelle corde. Je sais jamais comment la démarrer. Et une nouvelle corde à son arc, c'est mieux comme ça. Hein. C'est mieux que la flèche.
Une nouvelle corde à ton arc, ouais. Une nouvelle
flèche à ton carquois. C'est pas mal.
Ouais, ça marche aussi.
Ouais, j'aime bien.
Non, c'est que tu es romancier aussi, puisque t'as sorti il y a quelques mois maintenant ce livre, Sale Chien, dans lequel tu reviens justement sur la période d'Idamage. Une tournée. On est sur du roman, mais on pourrait parler presque d'autofiction, dans le sens où c'est très inspiré de faits réels. Ouais. C'est toi le narrateur, c'est ton histoire à toi, qui se mêle à, on sait jamais exactement qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est moins, mais qui s'inspire quand même beaucoup de votre vécu au sein du groupe.
Qui s'inspire vraiment beaucoup, beaucoup de notre vécu. Et, on m'a souvent demandé de faire la part des choses, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est inventé. Ouais. Tout est vrai. Tout est vrai. À 100%, tout est vrai. Et la part romanesque réside dans le fait que ça ne choque pas les gens quand on dit la même chose, par exemple, en termes de scénario en cinéma, c'est que j'ai refait la mise en scène. C'est-à-dire que il y a dans ce livre une histoire qui dure 3 semaines, véritablement, elle a duré 3 ans. Il y a 6 personnages principaux. Initialement, il y en avait plutôt une quinzaine ou une vingtaine.
T'as condensé, en fait.
J'ai beaucoup condensé parce que... Mon obsession, c'était le confort et la rapidité de lecture pour pour les personnes qui lisent.
C'est vraiment le truc digeste. Voilà. Ouais.
Si tu arrives avec une vraie autobiographie où t'es à 100% exhaustif et tu racontes tout, bon, ça va intéresser les fans, et encore pas tous. Mmh. Et tu vas perdre beaucoup de gens, je pense, au fil des pages. Ouais. Là, j'ai voulu faire un roman coup de poing, un truc qui se lit comme un bon polar, une série noire.
On lâche plus. Une fois qu'on a commencé, on lit toute une traite.
Je suis très heureux. T'es pas la première personne à me le dire. C'est un truc qui revient souvent dans les articles de presse que j'ai eus. Et c'était une obsession chez moi. J'ai pas envie de faire chier les gens, en fait. Avec un bouquin relou. Non, mais sans déconner. On va parler à bâton rompu. Des bouquins relous, il y en a déjà assez comme ça. Non, mais merde.
Bon, en tout cas, c'est pas relou, ça, le chien. En gros, ça démarre en 2010 et ça suit une tournée dans plusieurs pays avec D-Damage. On croise plein de personnages en couleur. Beaucoup de galères quand même aussi. Alors, tu le dis parce que D-Damage a été un groupe à succès. Et là, t'as voulu mettre l'accent parce que c'est un roman un peu noir, etc. Sur les galères, c'est pas que ça, mais c'est ce qui ressort quand même beaucoup dans le bouquin.
Bien sûr.
Et ce qui est génial, c'est que c'est à la fois un bouquin qui parle de la musique. Puisque c'est dans l'univers de la musique, mais ça va au-delà de ça. Ça va vraiment, ouais, il y a une histoire humaine avant tout, notamment parce que le groupe était composé de toi et de ton frère.
Tout à fait.
Votre relation est quand même beaucoup aussi dans le bouquin. D'autant plus que ton frère est malheureusement décédé, ce qui a mis fin d'ailleurs à D-Damage en 2018. Et il y a une forme d'hommage et de témoignage, en tout cas, de votre relation dans ce livre qui est assez touchante. Et à côté de ça, c'est aussi, ouais, du loufoque, parfois un peu sordide, parfois très drôle, même souvent très drôle. Bref, super bouquin, et puis c'est bien écrit en plus. Il y a un côté un peu brut, mais qui te tient en haleine, c'est assez... voilà, je vous conseille de lire ça, chien, c'est très cool. Et moi, je voulais qu'on t'invite derrière parce que ça nous permet non seulement de parler de ton roman, mais aussi plus globalement de cette autre facette de la vie de musicien, du circuit indépendant, et parfois il y a de belles choses, et puis parfois des trucs un peu plus chiants, quoi. Il y a les relations avec les labels, il faut aller réclamer son fric, les tournées galèrent, enfin... C'est assez incroyable tout ce que tu racontes dans le bouquin. Et je vous propose peut-être qu'on commence par parler un tout petit peu avant de parler vraiment du circuit indépendant, etc. De D-Damage quand même, pour se replonger, comprendre quelle est cette musique. Et ensuite, ça nous amènera à parler un peu de la tournée et puis du bouquin. Ça te va, Daz?
Let's go.
Et, en gros, D-Damage, vous vous lancez donc en 2000, on l'a dit, 2004, premier album avec Radio Ape, vraiment qui vous fait émerger sur la scène électronique, musique électronique française. Comment tu décrirais votre musique? C'est une musique un peu saturée, en même temps tu tiens au fait qu'elle était mélodique. C'est quoi D-Damage?
En fait, c'est une question d'équilibre. À chaque fois qu'on nous balançait à la gueule, ouais, c'est quand même vachement agressif, saturé, ce que vous faites. On répondait oui, mais bon, c'est quand même extrêmement mélodique. Il y a cette espèce de balance qu'on a toujours voulu avoir. Et oui, effectivement, on pouvait notamment en live être super énergique et faire de la musique qui...
Voire énervé.
Ouais, mais même c'était un énervement communicatif parce que ça se transformait dans le public, ça se transformait en hystérie. Ouais. C'est quand même super cool. Mais c'était pas non plus... je veux dire ça pour schématiser, mais c'était pas non plus de la techno hardcore, c'était pas de la musique de gabber hollandais décérébré, non, c'est pas du tout. C'est vraiment de la musique raffinée, français. C'est très français.
C'est français, monsieur.
C'est très français. Donc il y avait un truc raffiné et une très grande recherche mélodique. Et d'ailleurs, bon, je le dis un petit peu avec la larme à l'œil depuis que mon frère est mort, il y a beaucoup de gens qui, depuis sa mort, ont réécouté D-Damage. Alors je parle de gens qui, aujourd'hui, ont 30 ou peut-être même 40 ans et qui n'avaient pas réécouté notre musique et qui reviennent dessus 20 ans après en disant « Ah, mais c'était quand même... »
C'était pas mal, hein.
Des gens qui, à l'époque, ne voyaient que le côté extrêmement énergique et aujourd'hui reviennent dessus avec beaucoup de recul et disent « Ouais, il y a quand même vachement de recherche de composition, c'est vachement mélodique, les morceaux sont hyper construits. » Et ouais, c'est vraiment ce truc extrêmement ambivalent qu'on a toujours voulu défendre, mon frère et moi, de pas être 100% d'un côté, le cul entre deux chaises, mais surtout faire son trou, avoir son style. Et puis, je commence à empiéter sur la suite parce que je vais très vite parler du livre, mais aussi n'appartenir à aucune caste, n'appartenir à aucun mouvement.
Mmh. Ouais, c'est ça, parce que c'est de base de l'électro, mais en fait, il y a 12 milliards d'influences dans le...
Ah ouais, dans D-Damage, il y a énormément de hip-hop, il y a pas mal de rock indépendant pour le côté mélodique, et puis de l'électro, mais dans le sens électronica, donc... pas de la techno, vraiment de la musique de recherche de structure. On dit intelligent dance music pour l'IDM, mais ouais, il y a ce côté genre intelligent, c'est pour écarter le côté décérébré de la techno binaire qui fait boum boum.
Il y avait quand même, c'est tout ça que je trouve intéressant dans votre musique, c'est que il y a à la fois un truc raffiné et en même temps l'esprit punk, honnêtement.
Et l'esprit punk, je pense qu'il est bien moins lié à l'esthétique punk dans le sens rock, Sex Pistols. Ouais. Dans l'esprit punk, il est plus dans le sens on s'en bat les couilles. Ouais. Vraiment, ils sont gentils, les copains de chez Headbanger, de chez Institutes, à faire leur truc, leur niche, leur petite tribu de copains. Mais nous, lundi, on va enregistrer avec John Spencer du Blues Explosion à New York. Et puis, vendredi, on fait un morceau avec... je sais pas moi, Agala, tu vois, ou Young Jeezy. C'est vraiment, c'est ça le côté, on s'en bat les couilles. C'est genre, il y a pas de ligne directrice, on fait ce qu'on veut. Ouais, parce ce qu'on veut, quoi.
Il faut parler effectivement des featuring. Là, t'as cité Young Jeezy. Vous avez fité avec MF Doom aussi.
Ouais, enfin, on a fait un morceau avec Doom, ouais.
Et d'ailleurs, ça montre bien la diversité qu'il y avait dans votre musique. C'est assez impressionnant.
Avec Company Flow aussi.
Ouais, on a fait deux morceaux avec LP, ouais, mais on a fait deux morceaux avec Big Joss de Company Flow. Et notamment, il y a un truc qui est super drôle, ça, si on parle de Big Joss, je me sens obligé de le raconter. Vers 2005-2006, on avait sorti l'album Shimmy Shimmy Blade de D-Damage, donc celui qui est vraiment là. C'est le défilé des featuring de tout le rap indépendant ricain. Et à cette époque, on tournait beaucoup, on pouvait pas être avec tous les rappeurs, donc en fait, on les a tous fait venir les uns après les autres en France pour faire des concerts avec eux. Et à chaque fois, il y avait un concert à Lyon.
Mmh.
Et en fait, on a un morceau des Gourmets qui s'appelle Soyons sales,
ouais,
qui a été fait en plus de un an et demi, deux ans, où en fait, on a fait un cipher où chacun des rappeurs qu'on ramenait à Lyon avec Didamège, on leur disait, bon, écoutez, demain après-midi, on va aller dans ce studio, vous me posez un petit 16 bars, c'est pour faire un cipher avec tous les mecs de l'album, et c'est pour le groupe Les Gourmets. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un morceau, mais hallucinant. Le Soyons sales, Les Gourmets, qu'on a remixé avec Didamège, c'est un morceau, c'est une dinguerie totale, ce morceau, quoi. Tu te dis, mais comment ça se fait? En plus, même les vrais diggers, les vrais backpackers, ont parlé, bon, sur les forums internet, bien sûr, c'est souvent là qu'ils vont parler. Mais c'est pas normal d'avoir tel rappeur et tel rappeur sur le même morceau. C'est ça le côté, on s'en bat les couilles. C'est que même ces trucs de East Coast, West Coast, qui existent aussi dans l'underground, en fait, on cherchait à les casser, quoi. C'est vraiment plus le côté, on est là pour tout défoncer, on va pas s'emmerder, quoi.
Mais d'ailleurs, cette philosophie quasiment artistique, on la retrouve dans la façon dont vous travaillez avec votre frère, avec ton frère. C'est que il y avait lui qui était très dans la composition apparemment, et toi derrière qui reprenait un peu le bordel de composition, le fourmillement comme ça artistique, ouais, et qui bossait beaucoup l'arrangement, etc. On part du bordel et puis on essaie d'en faire un truc plus
tout
léché,
fait,
quoi.
Tout à fait. Ouais.
On retrouve cet esprit là. Ouais.
Ce qui était assez épuisant pour moi, hein, mais ouais. Mais en même temps, depuis que j'ai perdu ce truc là, ça me manque énormément parce que il y avait un côté diamant non taillé, tu vois, et c'était hyper intéressant. Et puis aussi le côté, parce que là on parle de style de musique depuis tout à l'heure, mais le côté aussi rien à foutre des formats, tu vois, de pas être dans le hook, le couplet refrain, vraiment genre faire des morceaux évolutifs comme on faisait dans le rock progressif dans les années 70, les Chleux avec des synthés là qui faisaient des morceaux de 18 minutes. Moi j'adore, hein, je trouve ça génial, hein. Vangelis là, quand je
les Grecs, tout Vangelis,
ça. Mais ouais non, mais bon, il est allemand, c'est du rock, c'est du krautrock, c'est allemand, okay, quoi.
Il est pas au courant, okay.
Ouais. Vous savez d'où ça vient, krautrock?
Non,
en fait les Allemands à la base, bon, je sais qu'il est grec, mais ouais, c'est un style allemand,
okay.
En fait initialement ils ont appelé ça le cosmische rock, donc le rock cosmique. Ça a commencé un petit peu à dépasser les frontières, c'est arrivé aux États-Unis, il y a eu une petite hype, mais les Américains, ça les emmerdait de dire cosmische, avec l'accent allemand, ouais, et tout. Et kraut, en fait, ça veut dire choucroute.
C'est choucroute, ouais.
En fait, c'est rock choucroute.
C'est terrible.
Ouais. Non, c'est très bien.
C'est un peu comme la musique cassoulet de Laurent la dernière fois. Hein.
Ouais,
on est assez proche de ça. Le dernier invité parlait de musique cassoulet. On est un peu dans cet esprit-là.
Cassoulet corps.
C'est ça. Est-ce que, pour ensuite bifurquer vers le bouquin, la musique que vous faisiez, elle vous destinait forcément à l'indépendance, à l'underground, tu penses? Parce que dans ton bouquin, et j'ai même noté la citation parce que je l'ai trouvé cool, tu dis « Les musiciens comme moi clament haut et fort ne jamais avoir vendu leur cul, alors qu'ils devraient avouer ne pas avoir trouvé acheteur. »
Ouais, je pense vraiment qu'on était voués à ça. Merci. Non, on était voués à ça, et au bout d'un moment, enfin, faut accepter les carcans. T'es pas un gosse de riche, t'as pas les bons contacts, et puis en plus de ça, même si t'essayes de faire du mainstream, t'y arrives pas. On a essayé de faire des trucs mainstream avec mon frère, ça a donné des super beaux morceaux, mais qui étaient pas mainstream. Voilà, tu sais, au bout d'un moment, tu te dis, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on fout tout à la poubelle pour continuer encore et encore éternellement à construire quelque chose pour tenter de signer en major? Ou est-ce qu'on finit par s'avouer, putain non, mais ces morceaux ils défoncent, on va pas les mettre à la poubelle, bordel de merde. Et là tu construis une carrière. Alors c'est super difficile, moi les chemins de traverse de l'underground, je vais pas les recommander à tous les jeunes qui veulent se lancer dans la musique.
Bon, en tout cas, vu ce qui se passe dans Sale Chien, je le recommande pas à tout le monde. Ça, c'est que moi j'ai pas envie de vivre ce qui vous est arrivé.
J'ai un pote à moi qui m'a dit tu vois les messages de prévention qu'il y a sur les paquets de cigarettes,
ouais.
Bon voilà, en fait il faudrait qu'on mette des extraits de Sale Chien sur les paquets de cordes de guitare.
Ne devenez pas musicien, attention,
pour dissuader les jeunes. Non mais après voilà, au bout d'un moment tu te dis, ces morceaux on va pas les foutre à la poubelle, j'y crois, ils sont vachement bien, alors on va essayer d'en faire quelque chose. Et c'est là effectivement qu'on a fini par découvrir que t'as pas que la culture DJ française. T'as des chemins de traverse dans pas mal de pays étrangers, mais même ensuite, on a fini par découvrir en France, parce qu'on est devenu connu, on a fini par découvrir en France qu'il y avait plein de labels underground qui faisaient des trucs mortels, alors de manière associative, autogérée, etc., etc. Mais ouais, en fait, il y a une possibilité et qui est pas non plus, qui est pas uniquement un truc de va-nu-pied, parce que j'ai fait effectivement pour faire un livre cool, j'ai fait une compilation de beaucoup de coups durs qui nous sont arrivés. Mais bon, faut pas oublier que Didamège, on a fait des scènes où on jouait devant 10 ou 15 000 personnes aussi. Mmh. On a eu nos moments de gloire extraordinaires. Après, j'ai choisi de raconter le worst of, quoi. C'est vraiment le pire du pire dans ce livre. Parce que, un, ça fait rire. Deux, ça tient en haleine. 3, bah, il y a quand même un capital sympathie, tu finis par aimer les personnages, ça marche, c'est super cool. Et dernièrement, 4, et c'est vraiment le truc le plus important, parce que là, je parle pas de faire quelque chose, je parle d'éviter quelque chose. La condescendance, je me branle sur ma carrière, je suis le meilleur, c'est nous. Non, j'ai jamais voulu faire ça. Mmh. C'est faux. Je pense que la vérité intéresse plus les gens. Mmh. Et,
Tu te disais que si tu parlais que des moments best-of, là, des scènes à 15 000 personnes, etc., tu disais peut-être que les gens changeraient leur regard par rapport à ce que...
C'est possible, ouais. C'est possible. Et puis, je crois aussi que si j'avais fait ça, j'aurais vendu uniquement aux fans de Didamage, et encore pas tous. Je crois qu'ils savent pas tous lire. Mais... non, pardon, elle était trop facile, celle-là.
Ouais, super.
Mais ouais, on se serait retrouvé à vendre quelques centaines d'exemplaires pour des gens nostalgiques d'une période. Là, je pense que j'ai rendu... j'ai rendu honneur à mon frère parce qu'il est très beau dans ce livre. Hein, mon frère, il était complètement pété du bocal, donc j'allais pas en faire un prince charmant. Ouais. Et comme m'a dit un des éditeurs avec qui j'ai travaillé, il m'a dit, mec... ton frère, c'est de la dynamite. Je veux que t'en fasses un personnage et que tu le mettes au premier plan parce qu'il y a un truc extraordinaire. Donc voilà, j'allais pas non plus polisser et faire comme si on était les Daft Punk numéro 2.
Ouais.
Tu vois? Non, en fait, c'est genre, on est les frères pétards. Quand on rentre, ça pue dans la pièce. Et puis quand on repart, il y a des choses qui ont été cassées chez toi. C'est vraiment le tu vois, du renouveau du western quand t'arrives à Sam Peckinpah, La Horde Sauvage, même les western spaghetti, on peut même aller jusqu'à Trinita, Bud Spencer et Terence Hill, tu vois, c'est genre l'épopée cradingue.
Ouais.
L'épopée sale, tu vois.
Ouais, ça mange les faillots dans la gamelle, quoi.
Ouais, ça fait prout. Ouais. Mais ça fait rire, quoi, tu vois. Et notre vie, c'était un peu ça. Et voilà, je l'ai pas non plus trop romancé, parce que quand je parle du mec de la première partie dans Sleep qui s'appelle Deb, je dis que le mec ne se change pas, c'est une histoire vécue. Hein, on a fait une tournée avec lui pendant 2 semaines, le mec avait oublié ses fringues de rechange à la maison.
Et surtout, il se douchait jamais.
Et il se douchait jamais.
Et vous étiez dans le van pendant des heures et des heures avec lui à côté.
On a enduré son odeur, et puis pour faire partir son odeur, il fallait fumer des joints avec les fenêtres fermées pour que ça sente la weed pour oublier son odeur.
Voilà, c'est ça
quand même.
Non, mais je suis content. Excuse-moi,
bien sûr.
Un dernier truc. Vas-y. Non, mais je suis vraiment content parce que déjà dans ce livre, je parle pas trop de la musique qu'on faisait. Ouais. Pour ça, il suffit de l'écouter, je pense. Donc, je vais pas perdre de temps à décrire notre musique dans un livre. Et ça en fait, c'était pas calculé de ma part, hein. Mais j'ai fini par comprendre, ça en a fait un truc fédérateur parce que. Il y a plein de musiciens qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'ils s'étaient identifiés en lisant ce livre, alors que c'est des mecs qui font du punk, de la trap, de la house, tu sais, genre rien à voir, quoi. Mais juste coltiner au milieu indépendant et au milieu des tournées indépendantes, ça peu importe le style de musique que tu fais, c'est la guerre.
Le premier concert, je veux pas spoiler, hein, mais le premier concert en Angleterre, là,
allons-y. Parlons un peu vraiment du circuit indépendant. Comme tu le disais, il y a une dimension supérieure dans ton bouquin. Il y en a même deux, je dirais. Il y a la relation avec ton frère, franchement, qui ressort beaucoup. Et évidemment, ce côté, on est dans la musique indépendante et ça entraîne plein de trucs. Et ça parle au-delà de seulement votre aventure à vous, tout ça, quoi. Donc il faut qu'on parle un peu de ce circuit indépendant, underground un peu particulier. Et là, tu disais, ouais, qu'il y a un moment qui t'a marqué, toi.
Ah bah, le premier concert, en fait, dans le supermarché muré, qui est, enfin, dantesque. Vraiment, quand on lit le truc, on fait, vraiment, c'est incroyable, en fait. Ça se passe en Angleterre. Vous devez jouer, vous savez même pas où. Au dernier moment, il y a un gars qui dit qu'il a loué un bulldozer pour péter les murs en fait du centre commercial pour vous permettre de rentrer dedans, et le centre commercial, enfin le supermarché, est rempli.
Faut que tu nous racontes, en fait, le truc qui ressort aujourd'hui, des années plus tard, c'est-à-dire 12 ans après cette aventure, mais surtout maintenant 6 mois après la sortie du livre. Me fait halluciner, parce que lorsque je l'ai écrit, j'y pensais pas du tout. Ouais. Mais aujourd'hui, maintenant, ce truc-là, tu peux le raconter, tu as dit dantesque.
C'est fou, en fait.
Ou en couleur, tu peux le raconter, mais bon, vraiment dans tous les détails. Le truc qui me fait halluciner aujourd'hui, en juillet 2022, c'est la notion de liberté. Après le Covid, la pandémie, les confinements.
Le confinement, ouais.
Un truc comme ça, en fait, je me dis, mais, est-ce que ça arrivera encore un jour? Des rave parties de sauvages, mais de cinglés, c'est psychiatrique là, on est vraiment à un niveau genre... Mais d'ailleurs, ça se termine, il y a des gens qui terminent en prison.
Mais alors, reprenons juste un peu quand même. Donc effectivement, ce que disait Daz, c'est cette date où jusqu'au dernier moment, on savait pas où c'est. Et puis tout d'un coup, on dit, bah, on y va et on ramène un bulldozer, quoi. Mm. Et en fait, c'est pour péter les portes d'un centre commercial qui est désaffecté, mais depuis peu, en réalité. Et donc, il y a encore tous les trucs dedans.
Il est pas vidé, ouais.
Il est pas vidé. Ouais, qu'est-ce que ça donne alors?
D'ailleurs, il y a des choses dont je parle pas dans le bouquin, mais les rayons viande n'avaient pas été vidés. Oh, ça, c'était bien violent. Et voilà, il y avait des no-go zones, comme dirait Trump. Mais ouais, il y avait c'était au mois de février. Donc, il y avait encore les jouets de Noël. C'était un truc de malade, c'était genre Charlie et la chocolaterie, Alice au pays des merveilles, je sais pas comment le dire, mais c'est genre tu t'arrives, t'as le droit avec un organisateur qui te dit le public arrive dans 45 minutes, vous, c'est-à-dire les techniciens, les musiciens, vous avez 45 minutes pour tout cambrioler, preniez tout ce que vous voulez.
Parce qu'il y aura plus rien après de toute façon.
Si, ou alors après il restait des trucs, mais c'était tellement orgiaque que c'était des trucs qui étaient en bordel, déchirés, foutus à terre. Au bout d'un moment, il y a un truc qui est fou, c'est après avoir pillé, les gens veulent détruire. C'est un instinct complètement naturel. et ouais, c'est là où on s'est retrouvés, mon frère et moi, on a foutu deux sapins synthétiques sur scène. On a volé des costumes de Père Noël. Et je me souviens, mon frère avait trouvé des mains de Mickey Mouse qui faisaient genre 50 ou 60 centimètres. Il avait des mains gigantesques. Et donc là, on commence le concert. Et Fred, alors ça, c'est la grande surprise, mais moi, je m'y attendais pas. Fred avait trouvé des stocks de boules de sapin de Noël.
Okay.
Et en fait, pendant le concert, mais des stocks genre... pas des petits trucs du BHV, vraiment des stocks de chez Metro. Des immenses boîtes, et en fait les trucs, il les ouvrait, il les déversait sur le public, et en fait notre concert, c'était perpétuellement une bataille de boules de Noël avec le public, mais il y en avait des centaines et des centaines, ça n'arrêtait jamais, quoi. Voilà, c'est
et tout ça sur fond de musique techno, musique électronique, sur différents étages, ouais, plusieurs scènes, enfin, ça paraît
assez complètement surréaliste. Et d'ailleurs, j'ai été, alors c'est pour ça aussi tout à l'heure que je vous parlais de l'aspect roman du livre. Parce que quand on dit ça, les gens pensent que c'est inventé, mais c'est pas uniquement ça. Roman, ça veut dire que ça ne va pas suivre à 100% la réalité. Donc là, en fait, il y a quelque chose qui fait souvent halluciner les gens, c'est que j'ai minimisé le truc, je te le jure. Tout à l'heure, je parlais des questions de rythme pour le lecteur. Ouais. En fait, mon passage sur l'Angleterre, le passage initial que j'ai écrit, bon, il y a peut-être un tiers que j'ai foutu à la poubelle.
Ah ouais.
Parce qu'il y a, je raconte trop de choses, et au bout d'un moment, je me dis, non mais ça va pas le...
Ça déséquilibre.
Bah ouais, le bouquin, il fait 300 pages, j'ai 100 pages sur l'Angleterre. Mm. Non, faut que j'enlève, ouais. Parce que après, bah voilà, j'ai pas autant à raconter sur l'Allemagne, sur les concerts en Italie et la France, etc., etc. Donc en fait, j'ai minimisé, mais je vous racontais un truc de malade. Il y avait un au troisième étage du supermarché, t'as des mecs qui avaient construit un immense rallye en boîte, alors boîte de chaussures, boîte de trucs d'appareils ménagers,
ouais.
Un immense rallye, et en fait, ils organisaient, il y avait deux buggy télécommandés, et c'était des courses de buggy, et t'avais un bookmaker qui prenait des mises en cachet d'ecstasy, en buvard de LSD, en weed, en MDMA et en fric. C'était un japonais qui s'appelle Shige, qui est un super copain à moi, DJ Scotch Egg, c'est son nom d'artiste, il fait de la musique. Et le mec, il était avec son petit sac Las Vegas Parano, il avait plein de drogue. Il faisait le bookmaker et t'avais des gars qui jouaient à la
voiture télécommandée.
Ouais, quoi. Mario Kart en direct, enfin, ouais. en réel, je veux dire. Et ouais, un autre truc que j'ai pas raconté aussi, les Japonais qui étaient avec nous ont subtilisé, eux ils avaient ramené plein de trucs à bouffer, et ils ont subtilisé des réchauds, des casseroles au rayon camping du supermarché, et au rayon camping du supermarché en fait ils avaient transformé ça en rayon cuisine, et en fait ils servaient à bouffer, c'était un petit restaurant et les gens venaient et achetaient la bouffe,
ben,
c'était
courte,
un truc
vraiment,
de malade, c'était un genre autarcie totale quoi.
Ouais. Ah, c'est incroyable, se faire enfermer dans un supermarché rempli, c'est un rêve de gosse, tu vois, de se dire on peut tout faire et tout. Et au final, ouais, donc vous allez là-dedans, vous pillez, et après vous bousillez tout le truc.
Ouais, et on est parti avant que ça tourne mal.
Ouais.
Mais ouais.
Parce que ça a mal tourné.
Ouais, ouais, comment ça se termine?
7h du matin, il y a un pyromane qui a foutu le feu.
Ah, ouais.
Et je me souviens vraiment, on était avec mon frère, ma sœur, qui habitait à Londres à l'époque. Ma sœur d'ailleurs qui a pris mais genre des kilos et des kilos de bouffe. Tu sais, elle était étudiante à Londres, elle avait pas de thunes. Elle a pris genre de la bouffe pour 3 mois quoi. Genre des conserves, des pâtes chinoises. Bref, et en fait du supermarché jusqu'au métro, il y avait une très très longue route en ligne droite. On a fait ça à 7h, 7h30 du matin avec le soleil qui venait de se lever. Et à un moment, on a vu passer genre 7 ou 8 camions de pompiers avec les sirènes à toute berzingue. Et on s'est dit, ah, chelou. Et c'est seulement le lendemain qu'on a appris que, à peine une demi-heure après notre départ, en fait, le truc a été incendié. Bon, je sais pas si vous imaginez, c'est pas une maison, hein, c'est un supermarché sur 3 étages, totalement cramé.
Ouais, d'accord.
Donc c'est là que les organisateurs de la. Qui s'appelle Cracked Squad Party. Se sont retrouvés en tôle, dont Michael Salmon, que j'ai retrouvé hein, depuis grâce aux réseaux sociaux. Et ouais, le mec, il s'est...
Il t'appelle Saumon dans le...
Non. On l'appelle Saumon, ouais. Michael Salmon, Saumon. Qui s'est fait... Oh, mais c'est pas méchant, mais ouais. Ça fait chier quand même. Il s'est fait genre 72 heures de garde-à-vue, quoi.
Ouais. Et bon, le truc plus embêtant, c'est que vous avez été payé pour cette date, au final?
On n'a pas été payé.
En nature, du coup.
Mais
d'une certaine manière.
On a fini par être payé beaucoup plus tard.
Okay,
mais je le raconte pas dans le livre parce que le livre en fait il est écrit à la première personne dans l'instant au jour le jour et durant le cadre de cette tournée. Non, on n'a pas vu les thunes. Mmh. Après non mais c'est bon, le mec est super honnête et on a été payé peut-être 2 ou 3 mois plus tard.
Ouais. Okay.
Mais en tout cas dans le livre je préfère dire qu'on n'a pas été payé parce que durant le périple, on n'a pas eu les thunes, ça c'est sûr. Et on en aurait bien eu besoin.
Ah bah, alors, il y a une autre date où vous n'êtes pas payé et vous décidez d'aller le chercher quand même, l'argent. Il faut que tu nous racontes ça aussi. Parce que, bon, après, on discutera peut-être un peu plus sérieusement, entre guillemets, du circuit indé. Mais ces histoires, à la fois, elles sont drôles, mais en même temps, elles parlent d'un truc aussi, tu vois, d'une réalité de ce milieu où, bah putain, pour se faire payer après une date, parfois, il faut aller le réclamer.
Ouais,
quoi,
le chercher, ouais.
Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais c'était 800 euros ce soir-là. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais vous vous rendez pas compte que pour 800 euros, vous risquez votre vie, mais faut pas faire des choses comme ça.
Alors, ça se passe en Italie. Ouais. Vous êtes invité dans une date, enfin, vous êtes booké dans une espèce de crêperie italienne.
Ouais.
Et qu'est-ce qui se passe?
Au demeurant, on a très bien mangé.
Ouais, c'est le seul truc positif de l'affaire. Hein.
Ouais, c'est aussi pour ça qu'on a quelque part été roulé dans la farine, parce que le mec, il nous a mis bien, tu vois. Et quand t'es repute, t'as pas envie d'aller te battre. Quoi, t'as juste envie de desserrer ta ceinture d'un cran et te mettre les mains sur le bide. On était bien, vraiment bien. Voilà, on fait le concert et le groupe avec nous joue aussi.
Déjà étonnant d'ailleurs le concert parce que c'est une espèce de restaurant familial. Enfin, on est même étonné que Didamage ait été booké dans ce lieu.
Nous aussi, tu sais. Mais après, c'est la dynamique de tournée. C'est ça qui est ouf parce que quand tu quand t'es connu dans ton pays ou le pays où on avait signé à l'époque en Angleterre, tu fais des super scènes. Mmh. Après, si tu pars sur une tournée, il y a aussi une dynamique. Et ça, c'est purement économique. Mmh. Bon, alors t'as une date à 800 balles, t'as une date à 1500 balles. Mais la première, c'est le mercredi. Et la deuxième, c'est le vendredi. Mmh. Et là, tu as ton agent de booking, donc ton booker, la personne qui est là pour organiser tes tournées, te dit, le problème, c'est qu'on n'a pas de concert le jeudi. Alors, on fait quoi? Là, tu as deux solutions. La première, c'est tu prends dans tes thunes. C'est toi qui payes l'hôtel, c'est toi qui payes l'essence, c'est toi qui payes tout. Ou alors, la deuxième solution de secours, c'est ton booker qui te dit, écoute, j'ai une date. Elle est moins chère, t'es moins bien payé, c'est dans un endroit moins bien, mais au moins tu seras pas à perte. Mmh. Et c'est là que tu acceptes de jouer, entre deux dates bien payées, tu acceptes de jouer dans un truc moins bien. Mmh. Donc là, en fait, je me permets économiquement de... C'est des choses que j'explique pas dans le livre, ça.
Ouais, mais en fait, on le sent en filigrane.
Tu comprends que c'est pour ça que ça arrive, et tu te retrouves dans ce que je vais appeler un plan interstice. Et là, c'est vraiment interstice, hein, c'est interzone même. Hein.
Et c'est une réalité courante dans le monde
de la tournée. Bien sûr, tu fais des concerts, t'as un petit groupe, ça va pas arriver tous les deux trois concerts, mais ça arrive quand même une fois par semaine. Quand tu fais une tournée assez longue, ça arrive une à deux fois par semaine, t'as un plan tout pété, mais tu l'acceptes parce que tu te dis... Je paye pas l'hôtel, je paye pas la bouffe, ça va couvrir les frais d'essence. Et puis bon, ça va faire un petit bifton au black en bonus, ça va, c'est cool. Et soudain, tu te retrouves dans une crêperie, tu fais oh non!
Avec une sono absolument pourrie, c'est, en gros, c'est une chaîne IFI avec deux HP pourraves qui envoie que dalle et il faut faire un concert avec ça, quoi.
Ouais.
Bon, après, mais du coup, les gens viennent quand même parce que.
En fait, c'était assez magique parce que. Et je le dis dans le livre, en fait, progressivement, une fois l'heure du dîner terminée, le patron, il a foutu les clients dehors, il a poussé les tables, et puis là, on a commencé à pousser le volume, et ça a commencé à avoir un petit peu plus d'allure, tu vois. Et surtout, t'as plein de gens de cette ville, hein, c'est un village, qui arrivent, et c'est des gens qui arrivent pas pour manger, en fait, tu vois, genre vers 22, 23, c'est des gens qui arrivent pour picoler, pour danser, et là, tu dis, bon, en fait, ça va, ça va, c'est pas une si pire soirée que ça. Bon, on fait les concerts, et puis le patron est super content, il nous amène à boire gratuitement, tout se passe bien, on a terminé le boulot, et il nous dit non, vous faites un rappel maintenant, voilà, il y a beaucoup de clients, ça se passe super bien, les gens aiment votre musique, vous faites un rappel. Et donc on fait un rappel, et le mec en a profité pour se faire la malle.
Pendant le rappel.
Pendant le rappel, ouais. Et c'est quand même le patron de l'établissement, le mec se casse de chez lui, quoi, tu vois. Le truc, en fait, c'est que ce monsieur qu'on appelle gros papa parce qu'il était gros
et puis c'était très papa. Puis c'est très familial,
c'était un truc familial, ouais.
Il y avait la maman d'ailleurs que vous croisez après et deux
sa
fils
femme et sa femme et ses deux fils.
Comme tu nous parles des fils aussi d'ailleurs.
Alors gros papa parlait français, il parlait un français approximatif, mais il parlait français. Le reste de sa famille ne parlait pas français, et donc le mec se fait la malle, mais c'est juste pour nous laisser en présence de sa femme et de ses fils qui eux ne parlent ni français, ni anglais. C'est là que tu vois la carotte commencer à pénétrer, tu vois. Et en fait, naturellement, nous, on commence à avoir peur, on réclame notre argent. Et là, tu te retrouves face à des gens qui disent « Ah, no complaint ».
Ouais.
Tu fais « Ouais, non, mais monnaie, euros ». Et ça commence à s'envenimer, on te regarde de travers, ça se passe pas super bien, ils arrêtent de servir... Il coupe le volume à zéro, et à mesure d'insister, t'as un des deux mecs qui commence à prendre nos instruments de musique et à l'acheter comme de la merde en dehors de la salle. Donc là, sur le parvis où il y a des gens qui fument leurs cigarettes et qui boivent un coup, t'as un des employés qui arrive et qui prend nos synthés, nos boîtes à rythme et qui les jette, mais comme de la merde, quoi. Mmh. Ça veut dire cassez-vous. Et il y a embrouille. Ça commence à gueuler jusqu'à ce que l'un de nous se prenne une grosse trempe dans la gueule. Et là, ça calme. Ok, on se casse.
Ils étaient costauds, les fils de gros papa.
Super costauds. Il n'y a pas de droit d'aînesse. Hein. Les mecs sont plus jeunes que nous, mais ils sont plus baraqués. Et donc voilà, on se retrouve à l'extérieur, les types du groupe avec nous, vraiment là, disent on s'en fout, on se casse, là on veut pas d'embrouille, on s'en va. Notre conducteur de bus est du même avis. Il dit les gars, faut pas qu'on reste ici, ça craint, c'est un endroit coupe-gorge, on s'en va. Et moi, je veux rester. Je veux rester pour le fric. Et il y a mon grand frère qui veut rester. Lui, il veut rester parce qu'il veut acheter de la weed.
Oui, il faut savoir, je me permets d'interrompre. C'est que dans le livre, effectivement, ton frère est en recherche permanente de weed. Alors,
c'est une dynamique.
C'est une dynamique, absolument. Ce qu'il faut dire aussi, et c'est un des aspects touchants du film, c'est aussi parce que son corps lui fait souffrir à ce moment-là, parce qu'il a une maladie.
Ouais, ouais.
Et que donc, la recherche de weed, elle est là sans cesse dans la tournée. Mais
c'est pour soulager, en fait. Hein.
C'est aussi
bien
pour soulager.
Bien sûr,
quoi.
Je veux juste en placer une pour l'univers pharmacolégal français. Pour certaines maladies, fumer un pétard fait infiniment plus de bien que se droguer avec tout plein de cachetons qu'on peut acheter légalement. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais ça résume également l'aspect du personnage que je dépeins dans ce bouquin pour parler de mon frère. Il y a ce truc genre j'ai besoin de weed. Donc on n'est pas d'accord sur le but recherché, mais on est d'accord sur le fait que on reste sur place.
Ouais.
Donc nous, en même temps, faut voir aussi que nous, en fait, on est les deux gros casse-couilles, hein, parce que t'as trois mecs du groupe de première partie et le chauffeur de bus qui pète un câble en disant mais faut pas qu'on reste ici, c'est coupe-gorge, on va avoir des emmerdes, on s'est déjà pris une trempe dans la gueule, on s'en va. Et t'as Fred et moi qui disent non, on reste. Avec un côté un petit peu, c'est le côté vaillant et inconscient que t'as quand t'es jeune, genre je me fais pas enculer pour de 500 balles, ce qui est complètement stupide.
On peut le dire maintenant.
Et mon frère réussit à trouver de la weed, une pierre de coup. Le dealer connaît l'adresse du patron de la salle de concert. Donc là vraiment là genre. Putain, la win, génial. On retourne au van, on explique ça à nos collègues qui sont, mais genre, effrayés. Mais vous êtes malades, on va pas aller chez eux. Et on leur dit, rien à foutre, on a l'adresse. Si vous voulez pas y aller, vous vous asseyez sur votre part du cachet. Mais mon frère et moi, on y va. On va dans sa maison, on va récupérer le fric. Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, c'était une grande aventure qui a duré plusieurs heures d'ailleurs, hein. Mais qui s'est terminé embrouille après embrouille, qui s'est terminé chez le mec qui a accepté de me payer. Mais pour me payer, il a demandé à ce qu'on fasse la paix. C'est un truc très sicilien, ça. Hein. Il faut qu'on soit amis pour travailler ensemble, il faut qu'on fasse la paix pour devenir amis. Pour faire la paix, il faut qu'on boive un verre ensemble. Et le mec m'a torché la gueule avec de l'alcool super fort, mais à m'en rendre invalide. Vraiment une cuite à m'en rendre invalide. J'ai eu peur de me faire tuer, ce voilà. Et le mec a fini par me payer en liquide. Mais je suis reparti de chez lui à quatre pattes.
C'est une perversité totale parce que tu rentres pas dans les détails. Après, il faut lire effectivement le bouquin parce qu'il y a plein d'histoires incroyables et dont celle-là en intégralité. Mais c'est que le mec la joue au chantage, c'est-à-dire qu'il te sort d'abord la moitié, il te dit « Ok, bois encore ce verre avec moi, puis après je te donne le reste, etc. Ouais. » En fait, il a compris que vous étiez là, vous allez casser les couilles, et donc il s'est dit « je vais lui remettre une petite dernière.
Ouais, »
quoi.
Ouais, ouais. quitte à me payer, lui s'est payé avec la gratification de bien se foutre de notre gueule.
D'humilier.
Et puis ouais, il me faisait peur avec son chien parce qu'il avait un chien de garde. Il voyait que j'avais peur des chiens. Enfin vraiment, j'étais sa petite michetonneuse quoi. Il s'est bien foutu de ma gueule. Mais je suis reparti avec l'argent.
Ouais.
Je suis reparti avec l'argent dans.
On apprend un peu plus tard dans le bouquin que.
Hein. Donc déjà, je suis pas.
Il y avait une autre douille encore. Hein.
Bah j'ai perdu quelques points de vie. C'est le premier truc important. Et oui, effectivement. Bon bah vas-y, on y va. Mais c'est sans fin en fait. Ça montre bien comment est construit le livre. C'est que tu termines une histoire et en fait tu tournes la page et tu fais oh putain c'est pas fini. Et donc le lendemain sur une aire d'autoroute, on s'aperçoit qu'il nous a payé avec des faux billets. Et ensuite les pages suivantes c'est une espèce de manuel des Castors Junior pour expliquer comment faire pour dilapider des faux billets dans des stations service en Italie pour récupérer la monnaie et réussir à blanchir tes faux billets. Bon bref, c'est que des histoires comme ça qui s'enchevêtrent les unes après les autres et c'est sans fin.
Et ben, il faut vraiment, je le montre encore une fois, il faut lire Ça le chien, c'est passionnant, c'est bien écrit, c'est touchant, et en même temps ça raconte plein de trucs sur la musique aussi. Très complet comme livre. Et justement, est-ce qu'on pourrait pas, au-delà des anecdotes, les trucs qui ressortent quand même beaucoup du bouquin, c'est une galère les ingestions par exemple. C'est-à-dire que tu débarques dans une salle, tu sais pas si le taf va être bien fait, il y a même un moment
si
dans le livre.
S'il est fait même.
S'il est fait, un moment dans le livre, tu dois le faire toi-même, d'ailleurs, parce que le type dit, moi je bosse pas. Finalement.
Bon, ça c'est quand même assez rare, mais ouais. Comme ça nous est arrivé, je me dis, attends, elle est tellement belle celle-là, je vais la placer. Mais ouais, un concert en Italie où l'ingé son voulait pas faire il voulait pas faire son travail sans être payé. Et je regarde, je fais, mais c'est pas normal. Tu dois bien avoir un salaire si tu travailles ici. Elle m'a fait oui, bien sûr, mais pour vous, je veux de l'argent en plus.
Mais là, en fait, tu te rends compte, c'est la salle qui doit le payer. En l'occurrence, il exigeait que ce soit vous.
Oh non, mais en fait, c'est l'état d'esprit italien.
C'est pas chiche.
Le mec, il a son salaire à la fin du mois, il n'y a pas de problème. Mais pour toi, bon, j'aime pas les Français, alors tu vas me donner 100 euros, ça va?
ça me fait penser, parce que pour parler de grand-papa, on a oublié, mais grand-papa, pendant qu'il te torche la gueule avec des alcools absolument horribles, il te parle du maréchal Pétain, etc. Enfin, bon,
terrible. C'est très difficile d'en parler, mais je vais essayer de faire une espèce d'équation mathématique. C'est un mélange de alcool bu dans des... quantité astronomique, atmosphère extrêmement menaçante, volonté d'humilier, et donc par la conversation, mindfuck. Mindfuck. Mais c'est vraiment genre, pourquoi il me parle de ça? Pourquoi je suis au fond de l'Italie.
On se demande même si tu commences pas à rentrer dans une forme de délire quand tu racontes le truc, tu vois. C'est s'il ressort de ton écriture. Mmh. Tu commences à halluciner, à délirer autour de ce qui se passe, de cette scène complètement folle et de l'alcool. Et de, fin, fin.
Mmh. Ah, mais il y avait cette espèce d'obsession sur la moustache. la moustache impose le respect. La moustache impose la crainte. Donc, entre le maréchal Pétain et le général de Gaulle, tu préfères quelle moustache? Tu sais, le mec, c'était un Italien qui te dit ça, il te dit, entre le maréchal Pétain et le général de Gaulle, on peut pas demander qui tu préfères, c'est comme demander qui tu préfères entre ton père et ta mère. Et tu sais, le mec te raconte ça, et je suis complètement bourré, mais j'ai deux neurones dans le cerveau qui font la connexion entre la France occupée et le fascisme italien. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais où je suis, quoi?
Et en parallèle, t'as une idée en tête, c'est mon fric, quoi.
Oui, et surtout, dans mon champ de vision, ces deux fistons qui me regardent, mais vraiment en chien de fusil, genre, toi, si tu bouges, on te défonce la gueule. Et puis, le chien de garde qui arrête pas d'aboyer.
Ouais, c'est surréaliste, comme...
Ah ouais, c'est vraiment surréaliste. J'avais ressenti ce truc dans... Magnolia, vous avez vu ce film?
Non, je l'ai pas vu.
Il y a une scène où Mark Wahlberg, il est chez un dealer. Alors c'est hyper oppressant. En fait, dans le jardin, il y a un petit garçon qui fait péter des pétards. Et en fait, c'est au niveau de la mise en scène cinématographique, c'est extraordinaire parce que c'est un deal de coke qui se passe très très mal. Et bordel de merde, il y a toutes les 20 secondes, t'as un pétard qui éclate, et ça fait sursauter tout le monde. Donc là, pour moi, c'est du génie de mise en scène, ce truc-là, parce que t'étais pas obligé d'avoir le gamin avec ses pétards, mais ça vraiment le climax.
Ça participe
tu vois.
À l'ambiance.
Et là, chez le gros papa là en Sicile, c'était pareil avec son chien, parce qu'il y avait toutes ces embrouilles. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il avait un chien super agressif qui n'arrêtait pas de hurler, qui était tenu en laisse par un de ses fils. Donc vraiment là, le truc où soudain t'as le mec qui commence à te parler de la moustache du maréchal Pétain, et tu te dis mais qu'est-ce que je fais là quoi?
Puis, il avait bien senti le truc en plus, parce que ça, on le retrouve beaucoup dans le bouquin. T'aimes pas les chiens.
Ah, mais j'ai peur des chiens. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, vraiment, il faut faire la part des choses dans la langue française. Mm-hmm. Tu prends vraiment l'étymologie de mots avec le suffixe phobie. Mm-hmm. C'est peur. Mm-hmm. Après, la peur, ça peut te rendre vraiment con. Mm-hmm. Tu vois. Islamophobie. Je vais pas excuser ces gens sous prétexte qu'ils ont peur, hein, qu'ils rentrent chez eux, c'est des ordures. Il faut savoir gérer sa peur. Il faut accepter sa peur. Après,
ça va au-delà de la. T'es quand même dur vis-à-vis de la race canine de manière générale.
Je suis dur, effectivement, mais c'est un roman initiatique et quand même à la fin du livre, tu te rends compte que je suis protégé par un chien et que c'est mon amour pour les chiens qui sauve mon âme.
Et j'allais en arriver là. C'est d'une part, on retrouve les chiens dans le titre, sale chien.
Effectivement, t'as toute cette diatribe sur ma haine du chien, mais qui finissent par me faire comprendre que j'ai besoin d'eux. Et que c'est seulement en finissant par les aimer qu'ils vont me protéger. Mmh. Donc c'est vraiment initiatique. Et je me dois de te préciser au passage que depuis que ce livre est sorti, j'ai plus peur des chiens.
C'est vrai.
Non, mais il faut apprendre à vivre avec ses peurs. Mmh. C'est hyper important. Juste les avoir en bagage, en fait, c'est quelque chose qui te détruit et ça ne peut que te rendre con, haineux et fermé. Ça, j'en suis persuadé.
Parce que la figure du chien, elle est super intéressante dans le bouquin. Donc, déjà, on le retrouve effectivement dans le titre, sale chien. À la fois tu évoques un traumatisme avec les chiens et qui fait que t'en as extrêmement peur, et en même temps le chien est au centre de la relation avec ton frère parce que vous avez depuis tout petit un chien imaginaire que vous partagez, Urko, et qui symbolise complètement votre relation et qui est jusqu'à la fin, tu te rattaches à Urko, t'as besoin d'Urko,
bien sûr.
Oui, c'est bien vu. Enfin, ça rapporte encore une dimension supplémentaire à ce livre.
Après, là, j'ai fait mon Pierre Bourdieu de seconde. Hein, c'est, pardonnez-moi, c'était mon petit quart d'heure intello. Ouais. Mais j'ai quand même donné, avec tout ce que je viens de dire, j'ai quand même donné une forme un peu barbe à papa, quoi. Mmh. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un petit côté conte de fées, quand même. Et effectivement, il y a cet animal invisible qui nous suit partout. Et je pense qu'il n'y a pas une signification, il y en a plusieurs.
Mmh. Moi, je me posais la question, c'est quoi comme race de chien? Est-ce que tu le visualises?
Je l'ai toujours vu comme un berger allemand parce que j'ai failli me faire tuer par un chien quand j'étais gamin. Et c'était un berger allemand. Ouais. Ouais. Enfin, une femelle, on dit bergère allemande.
Moi, berger allemand femelle, ça marche aussi.
Je pense aussi.
Voilà, donc moi, je l'ai toujours vu comme ça, mais... Après, c'est un réceptacle. Tu le vois comme tu veux.
Ce que tu d'accord. Avais, ouais.
Alors, par contre, il y a un truc qui m'a fait péter un câble. C'est que le nom Urko, c'est mon frère qui l'a trouvé. Mm-hmm. Je ne l'ai pas inventé. C'est mon frère qui l'a trouvé. Et là, il y a il y a un an, j'avais fini d'écrire le livre et il y a un reboot des Maîtres de l'Univers sur Netflix. Vous avez vu ça?
Non.
Ouais. Ok. Donc, tu vois les personnages des Maîtres de l'Univers. Ouais. Il y a Urko.
Ouais.
J'ai pas dit Urko, hein, mais Urko. Et t'as un épisode vraiment qui fait le focus sur Urko. Et il explique en fait que ce nom lui a été donné par ses parents parce que c'est la signification première de l'oracle. Et après, bon, quand tu sais ce que c'est que l'oracle dans la tragédie grecque, etc., ouais, ouais. etc., en fait, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble parce que moi, je savais pas tout ça.
Ouais. Est-ce que ton frère le savait du coup?
C'est une très bonne question, on n'aura jamais la réponse, ouais. ok. Mais Urko a une posture d'oracle dans ce livre. Et là, tu te dis, putain, bordel de... Oui, il est possible que mon frère est au courant, mais ça, j'en sais rien. Par contre, je veux pointer le doigt sur la surprise que j'ai eue, moi, en découvrant cette signification
après avoir sorti
le livre. Ça m'a fait péter un câble.
Pour revenir un peu à toutes ces histoires de circuits indépendants, franchement, il en ressort qu'avec les labels, c'est compliqué. Que donc, on disait, avec les injections, ça peut être compliqué, qu'il faut aller réclamer son fric. Que la santé aussi ramasse quand même avec cette tournée.
Bien sûr.
Est-ce que c'est vraiment dans l'optique d'un roman, etc., tu dépeins ça? On sait que c'est pas que ça, mais c'est aussi une réalité du circuit indépendant pour toi, tout ça. C'est...
Ah, j'ai pas exagéré hein, là-dessus. C'est-à-dire
non, ce que je veux dire, c'est le côté condensé, tu sais, c'est ne pas parler en parallèle des tournées qui se passent super bien, etc., parce qu'il y en a eu aussi. En fait, là, il en ressort quand même. On n'a pas envie de faire.
C'est quoi la proportion, en fait, de moments comme ça
Est-ce que c'est si dur, vraiment? Est-ce que c'est souvent la galère dans le circuit indépendant?
Non, alors, la tournée en Italie, elle a fait 12 jours. Elle dure 5 jours dans le livre. Imaginez, en fait, c'est la même chose, mais plus long. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai raccourci en Angleterre. Et la tournée en Italie, c'était ça tout le temps. Après, t'as des one-shots par-ci, par-là, t'as une tournée qui se passe super bien, et c'est génial, c'est génial. Ouais. Par contre, il n'y a pas vraiment d'entre-deux.
Ouais.
En gros, tu pars dans une tournée, ça commence à être de la merde, tu dis, bon, ça va être de la merde jusqu'à la fin. Tu pars sur une tournée où t'as un stand de massage à côté du catering, là, tu fais, je crois que ça va bien se passer.
Mais une bonne tournée peut pas partir en sucette et une mauvaise tournée peut pas miraculeusement
si, après,
se transformer.
Je te coupe, mais juste sur le premier point de ta question, déjà, si, ça peut toujours partir en couille, au niveau humain.
Ouais.
Voilà, ça m'est déjà arrivé, mais après, c'est pas lié à ton environnement.
Oui, d'accord, ok.
Après, il y a plein d'autres facteurs aussi, mais Ce sont des choses sur lesquelles je vais pas écrire et que je pourrais très très peu en parler. Tu vois, moi je suis pas, je suis pas coutumier de la cocaïne.
Ouais.
Je sais que c'est un truc qui peut bien foutre la merde dans une tournée, ça. Mais vraiment faire tout partir en couille. Surtout que les gens qui prennent de la coke en ont besoin dans ce contexte particulièrement, parce que à te mettre des races jusqu'à 5h du matin, ouais, le lendemain, pour t'es en manque de sommeil, et puis il faut avoir la forme le lendemain, bah, le lendemain, en fait, ces gens-là prennent de la coke pour se rebooster.
Ouais.
Et le truc, en fait, c'est que...
Ça s'accumule et...
Bah, tu peux faire ça 3 fois, 4 fois, mais au bout d'un moment, ton cerveau, il n'en peut plus, il dit stop, tu vois.
Ouais.
Et ça change ta personnalité, et puis il y a des trucs d'embrouille, et qui plus est, si t'es dans un groupe où tout le monde prend de la coke et qu'il n'y en a plus beaucoup, des embrouilles de coke, au secours. Moi, fort heureusement, j'ai toujours été en dehors de ces choses-là. Mais ouais, dans des degrés d'embrouille, il peut y en avoir à tous les niveaux.
Ouais.
Ces imbéciles de frères Gallagher ont fini par s'engueuler et je pense que eux, leur tournée se passait bien. Hein.
Ouais.
Mais ça, c'est... Ouais. Je crois qu'elle est, ça y est pour
ça,
beaucoup.
Ça joue, hein. Ça joue aussi. Oui.
C'est vrai que la drogue est très présente dans le livre. C'est une réalité pour toi aussi du monde de la musique de manière générale, en tout cas de celui que vous fréquentiez.
Ouais, après, bon, moi je parle beaucoup de weed hein, dans mon livre, faut pas se voler la face, c'est la drogue des vieux aujourd'hui ça. Hein. Mmh. Aujourd'hui, t'es un has-been quand tu fumes des pétards. Hein. Vraiment, aujourd'hui, c'est MDMA, cocaïne dans les clubs. Et puis, j'oublie, ou même des choses que j'ignore d'ailleurs. Hein. Mais ouais, je parle beaucoup de weed. Mais je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Il y avait un côté thérapeutique pour mon grand frère.
Ouais.
Moi, j'en fume pas. C'était vraiment, j'allais en chercher. C'était pour lui. C'est plus une manière d'assurer la tournée. Parce que, comme tu l'as vu, il y a un concert que je fais sans lui aussi dans le livre. Parce que justement, il n'a pas de weed et il est atteint de crise de douleur. Mmh. Donc là, c'est plus une question de vie ou de mort. Quoi. C'est pas un petit privilège bourgeois de petit con qui s'en met dans les narines. C'est quand même une autre dimension.
Et puis, à travers ton frère en particulier, mais même chez tous les membres de la tournée, parce que vous tournez avec des rappeurs américains, etc., qui sont inspirés de personnages avec qui vous avez réellement tourné, la santé, ça ramasse quand même.
Ah, mais grave.
Vous ramassez. Grave. Tu vois, ça dépeint un tableau de manière générale. Encore, c'est pour ça que j'insistais sur le côté, c'est condensé. On sait qu'à côté, il y a eu des belles dates, etc. Des choses. Mais globalement, on se dit, putain, c'est un métier précaire et c'est un métier qui fait mal au corps.
Ouais.
Et c'est l'impression quand même que t'en as après 20 ans de carrière.
Ouais, tout à fait. Après, bon, on va pas non plus parler de plan de carrière. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que c'est triste comme la mort. Et à la fin, on finit par faire la comparaison des pourcentages de remboursement de nos mutuelles. Je veux dire, on va pas en arriver là. Il y a un truc qui est ultra radical, c'est le cri du cœur. T'as 16 ans, 17, 18 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux aller par là. Je veux aller par là. Attention quand même, là, le chemin, il est un peu bosselé. Hein. Non, je veux aller par là. Vraiment. Et on a construit notre vie, et je suis extrêmement fier. Vraiment, de 20 ans de carrière avec mon frère, je suis extrêmement fier de tout ce qu'on a fait. Il y a eu des hauts, des bas, c'est sûr. Et on savait très bien que ça serait pas... Bah, on n'était pas promis à la carrière de Justice ou de Daft Punk, c'est sûr. Mmh. Mais on a eu notre succès, on a marqué les esprits. Aujourd'hui, les gens continuent à nous écouter. Et sincèrement, moi, je me souviens... Alors là, je vais te parler de mon papa. Mais quand j'avais 19 ou 20 ans, on avait déjà sorti 2 albums de D-Damage, mais sur des tout petits labels. Quand j'avais 19 ou 20 ans, j'étais encore en CDI. Et j'étais un ingénieur informatique chez Lagardère et on faisait des piges pour Sanofi Aventis, donc le
laboratoire.
Laboratoire. Voilà. Ouais. Bon alors, quand je dis ingénieur informatique, attention, à l'époque, n'importe quel branleur qui savait coder sur Dreamweaver avait un salaire d'ingénieur. C'est plus le cas aujourd'hui. Bon, il n'empêche que, à cette époque, mes parents, ils étaient super fiers de moi. Et moi, mais genre, j'étais en agonie totale, quoi.
Ouais.
Et soudain, on signe chez Planète Mu avec mon frère. J'ai demandé une rupture conventionnelle. Je me suis cassé. J'ai pris un petit bifton. Et à l'époque, mon père, il comprenait pas, quoi.
Ouais, bah oui, mais bien sûr. Ouais.
Parce que tu vois, genre, j'avais le...
T'avais la voie toute tracée et t'as décidé de te barrer à mi-chemin et ouais...
Oui, et puis bon, après, bon, ça... On n'a pas les mêmes idées politiques, mon papa et moi, mais... tu vois, lui, mon père, c'est un ferrailleur.
Ouais.
Il a fait toute sa vie dans la ferraille et Sanofi Aventis, lui, travaillait pour leur site. Donc, quand je dis leur site, c'est genre les terrains.
Ouais.
Et c'était un de ses plus gros clients. Donc son fils qui travaille pour Sanofi Aventis, pour lui c'était un truc d'accomplissement, c'était un truc de fierté, etc. Pour moi c'est des gens qui te tuent. Vraiment, c'est des gens qui te rendent accro à des produits pharmacologiques qui finissent par te défoncer le corps et qui sont pires que les psychotropes et la weed et tout.
Ouais.
Tu vois, j'aime pas ces gens. Et à l'époque je gagnais, putain, tu vois, j'avais 21, 22 ans, je gagnais quand même dans les 3000 balles par mois. C'est, à cet âge-là, c'est mortel, quoi. Ouais, bah ouais. En fait, j'aimais pas être là-dedans, quoi. J'aimais vraiment pas être là-dedans. Et je suis parti pour faire, bah voilà, ce que vous avez lu. Mmh. Et beaucoup de gens peuvent penser, à juste titre, que j'étais stupide. Putain, qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi. Et puis, ce livre aurait jamais existé si j'étais, resté à cette place à l'époque, quoi. Donc ouais, je peux pas dire attention les enfants, n'allez pas dans cette direction, c'est dangereux. Non, c'est une question de nature humaine. T'es une tête brûlée, t'y vas, voilà, c'est tout. Et puis les gens qui m'écoutent, s'il y a des vraies têtes brûlées, en fait, ils s'en foutent de ce que je raconte. Ils le feront quoi qu'il arrive. Ouais. Ils n'ont pas besoin de conseils, tu vois.
Après, ce que ça peut nous amener par contre à penser, c'est qu'il doit y avoir une réflexion aussi dans le milieu de la musique, de la part des professionnels, de la part des tourneurs, des labels, etc. À aussi parce que il peut y avoir un côté romantique parfois, c'est de se dire je suis musicien, vas-y c'est la déglingue, on va y aller, on est des soldats. Ouais. Or on n'aurait pas, enfin c'est mon opinion en tout cas, on n'aurait pas avoir cette vision romantique. À partir du moment où ça te détruit la santé, ça te met dans des situations pas possibles, tu galères à récupérer du fric, c'est pas normal.
Bien sûr.
C'est pas normal. Et donc il doit y avoir une réflexion dans le monde professionnel pour protéger ces artistes.
Ouais, mais tu peux pas, enfin.
Bien sûr que si, que tu peux. Tu peux décider d'un budget à la base, organiser ta tournée.
En termes de prévention, moi, je pense qu'il y a beaucoup. Pour protéger les gens, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses infiniment plus importantes à faire en priorité.
Que les artistes disent ou que quoi ?
Oh, mais bien sûr que les artistes, bien sûr. Tu vois.
Pourquoi il faut hiérarchiser c'est des gens qui ont.
Non, mais
les travailleurs de manière générale et les artistes le sont aussi.
Mais déjà, dans les clubs qu'on fout à la porte, tous les connards de service de sécu qui font pas leur boulot, ça évitera que des nanas se fassent violer. Qu'on fasse un peu plus appel à la Croix-Rouge ou à des médecins pour avoir des stands d'hygiène. Parce que les jeunes se droguent, on peut pas les empêcher. D'accord ? Tu peux aller dans la répression, monsieur Sarkozy, monsieur. Tu peux donner des coups de matraque, ça n'empêchera rien. Ouais. Les jeunes vont continuer à se droguer, c'est l'âge bête, tu vois, il faut qu'ils le fassent, et c'est très bien comme ça. Par contre, quand ils sont en passe de faire une crise cardiaque, c'est bien de les encadrer. Mmh. Tu vois, empêcher des viols, empêcher des morts, ça, c'est des priorités qui sont infiniment, mais infiniment plus importantes que mon petit cul de blanc bourgeois, là, tu vois. Genre,
c'est pas ça, c'est juste que.
Après, si moi, défendre pour ma condition, t'inquiète pas, je suis un grand garçon et je vais le faire. Je crois que je l'ai bien prouvé en écrivant ce bouquin, tu vois.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit de dire aussi que dans un milieu professionnel, on doit considérer les salariés et les travailleurs comme des gens qui ne doivent pas s'inquiéter. Est-ce qu'ils vont être payés après travailler, tu vois.
Ouais,
c'est pas une question de hiérarchie, de dire oui, par rapport à d'autres problèmes, etc.
Excuse-moi, je me suis emporté, je vais te rejoindre et je suis d'accord avec toi à la seule et unique condition qu'on agrandisse ce débat à quelque chose de plus large que la musique.
Parce évidemment.
Que des gens qui se font escroquer, il y en a partout.
Évidemment.
Dans toutes les branches professionnelles.
Bien sûr.
D'ailleurs, je suis payé en liquide aujourd'hui.
T'es payé en bon d'achat.
Non, personne n'est payé. Les invités ne sont pas payés dans cette émission. Ils viennent pour le plaisir. Bon, si, en coup, à la limite, on paye des coups, ça oui.
Alors, un jus d'ananas.
Non, mais après. Ta réflexion est évidemment juste, mais je me dis, quand tu te retrouves dans une crêperie au fin fond de la Sicile avec un mec qui s'appelle Gros Papa, c'était des choses qui sont pas forcément de toute façon prévues ou planifiées dès le départ, c'est des plans qui peuvent popper comme ça pendant que t'es en train de le... Donc en fait, moi je peux comprendre que tout le monde soit pas synchro sur...
Mais je suis d'accord, il peut y avoir des emmerdes qui arrivent, etc. Mais typiquement, le fait que vous êtes à la merci que votre cachet dans une salle, il baisse à tout moment parce que pour telle raison, vous dites, bah là, non, en fait, c'était pas le deal, donc vous payez moins. Par contre, le pourcentage que va prendre votre producteur, il reste le même. Par exemple, ça, tu vois, ça, c'est un truc pas normal. Ouais. On peut pas tout maîtriser, mais je pense, par contre, que les professionnels qui ont du pouvoir, parfois, dans ce milieu, ils peuvent faire en sorte d'accompagner un peu mieux ou au moins mettre à disposition d'autres professionnels par rapport à la santé notamment qui peuvent accompagner aussi les musiciens, etc. Les musiciens comme n'importe quel travailleur, je suis d'accord. Moi j'aime pas non plus le côté genre il faut protéger les artistes particulièrement, etc. Non, mais par contre c'est des gens qui bossent et comme tous les autres gens qui bossent, on doit essayer de faire en sorte, tu vois, que leur souffrance potentielle causée par le travail, elle soit prise en compte quand même.
Écoute, je suis d'accord avec toi, mais des gens malhonnêtes, il y en a partout et il y en aura toujours partout. Même dans les endroits les plus propres, on n'est pas obligé de, enfin quand je dis propre, pardon, c'est en comparaison avec la crêperie du gouffre au fond de la Sicile. Hein. Mais à Paris, t'as des boîtes. Alors bon, je vais me retenir de citer des noms. Mais à Paris, t'as des boîtes, notamment une boîte, en fait, elle a changé de nom en 20 ans. Elle a changé de nom 5 fois. Et c'est toujours la même équipe, c'est toujours les mêmes personnes. Et en fait, les mecs ne payent personne. Ils payent personne. Et puis, qu'est-ce qui se passe au bout de 2-3 ans ? Dépôt de bilan. Oh, les mêmes, on prend les mêmes, on recommence. Ils font une nouvelle boîte et ils doivent plus d'argent à personne. Donc,
C'est quoi le nom de la boîte?
C'est très difficile, même quand t'es intermittent, être représenté par un syndicat, c'est compliqué parce que t'es pas dans une boîte, t'es pas salarié en CDD, CDI. Après, il existe des associations pour te protéger, mais c'est la croix et la bannière. Et puis, je veux pas inciter les gens à faire des conneries, mais quand ça se passe dans le feu de l'action, au bout d'un moment, tu montres les dents et puis tu vas te défendre, quoi. Mmh. Tu vas te défendre, c'est ce qui s'est passé en Sicile. Et je le dis pas de la manière la plus glorieuse qui soit, parce que je raconte pas que des victoires. Il y a d'autres plans où on essaie de se défendre, on s'en prend plein la gueule, on se fait rétamer et puis et on demande pas notre reste. Mais bon, je pense pas que être représenté par un syndicat ou même des hommes politiques qui veulent faire changer les choses aurait changé un iota de détails de ce qui s'est passé pour nous en Sicile. Mmh. Vraiment rien, zéro.
Ouais, écoute, je sais pas quand ça les tournées dans un pays étranger, c'est certainement plus compliqué. Je pense que déjà à l'échelle du territoire français, par exemple, il y a des choses qui peuvent être mises en place.
Il y a des crêperies cheloues, hein, je pense aussi. Hein. Des crêperies interlopes.
Je vous propose, les gars, qu'on passe à une dernière partie de ce podcast avant de terminer. Et c'est juste quelques réflexions, en fait. Parce que ce qui ressort du bouquin aussi, c'est que... Tu vois, aujourd'hui, il y a des gens qui envisagent leur carrière musicale comme un entrepreneur. On en parle régulièrement dans ce podcast.
Bien sûr.
Et c'est pas du tout une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'on peut se dire aussi, comment je fais pour émerger en tant qu'artiste, par quel réseau je passe, etc. Et parfois, il faut avoir les aptitudes d'entrepreneur, tu vois. Notamment si tu veux être indépendant. Ça aide à maîtriser plein d'aspects du
George
business.
George Bush Jr. avait dit, je cite, « Les Français n'ont pas de mot équivalent pour entrepreneur ». Fin de citation.
George Bush Jr.
Incroyable.
Oui, je vois parfaitement. Ouais.
Et donc, mais voilà, c'est une manière d'envisager sa carrière que je trouve respectable. Toi, t'es pas du tout là-dedans. C'est ce qui ressort du bouquin, c'est se mêle, tu divises plus les choses. C'est tu travailles en famille, déjà, tu travailles avec ton frère. Et ta créativité, ton art, tes tournées, ça devient un mode de vie, tout ça, quasiment, j'ai l'impression. Mm. T'as intégré, c'est ce que t'es, en fait. Alors, dans quel sens ça s'est fait? Est-ce que c'est parce que t'étais comme ça que tu t'es amené à l'art? Est-ce que c'est l'art qui t'a aussi forgé? T'as amené un mode de vie? Je sais pas. Mais, tu vois, il y a un truc qui ressort comme ça, tu vis le truc. C'est pas seulement une pratique ou un métier, tu vois. Mm.
Déjà, je viens d'une famille d'ouvriers. Ouais. Tu vois, mon père est d'origine tchèque, ma mère est d'origine algérienne. Et donc ils sont issus de l'immigration, ils se sont rencontrés, ils ont fait leur boîte. Déjà, mes parents, ma mère et mon père travaillaient ensemble. On fait une boîte, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, de ferrailleurs. Mmh. Et il y a ce truc qui est extrêmement dangereux, mais malheureusement, les chiens ne font pas des chats. Donc j'ai reproduit le format travailler en famille. Ça, c'est le premier truc. Et ensuite, le deuxième truc, c'est que venant d'un milieu populaire et ouvrier, mon frère et moi, on n'a jamais eu de piston, on n'a jamais eu d'encouragement, on a eu que des portes fermées. Et au bout d'un moment, on a fini par comprendre que soit tu défonces la porte, soit tu rentres en catimini en faisant le tour de la maison, tu rentres par la fenêtre. J'ai envie de te dire, quelque part, c'est de l'entrepreneuriat sauvage. c'est pas aussi propre que Kanye West dans South Park, tu vois, mais ça reste quand même une volonté de faire son truc. Et faire son truc, c'est pas uniquement faire sa petite œuvre artistique à montrer aux gens. Il y a la Major Compagnie, c'est un building. Et toi, tu fais ta petite maison. Tu sais, comme dans Les Trois Petits Cochons. Bon, elle est petite, mais bon, celle de Nouf Nouf, je sais plus. Enfin, celle qui est en brique, quoi.
Okay.
Tu dis, c'est de la bonne cam, elle est solide, ma maison. Voilà, c'est ce qu'on a fait pendant 20 ans avec mon frère. On a construit notre petite maison. Et même si D-Damage est terminé aujourd'hui, les fruits sont encore là, ça va rester. Et je pense qu'on a fait notre belle petite baraque. Après, c'est rigolo, hein, la phrase que tu as dit tout à l'heure, les deux, les artistes qui clament haut et fort ne pas avoir vendu leur cul, mais qui n'osent pas avouer avoir
trouvé...
Qui n'ont pas trouvé d'acheteur. Je vous cache pas que si on m'avait proposé si Fred et moi on nous avait proposé de croquer la grosse part du gâteau à une époque, on aurait tenté de le faire. Mais c'est jamais arrivé. Au bout d'un moment, tu te dis
après la question c'est si on vous avait proposé mais en formatant ce que vous faisiez, est-ce que vous auriez accepté ou pas?
C'est-à-dire la question est super bizarre parce que personne n'a osé nous proposer, sachant que
en se disant
on refuserait de rentrer dans des trucs de format.
Ouais.
Non, c'est sûr, tu vois. Et je dis pas ça avec haine. Hein. On a quand même eu des aventures hyper cool, notamment des aventures de scène. On a partagé des scènes avec des musiciens de Institutes, avec les mecs de Headbanger. Tu vois, il y a encore 2 mois, j'ai rendu visite à Pedro. Je lui ai offert un bouquin d'ailleurs. Enfin, tu vois, genre, on est cool, on est potes, ouais. Tout va bien. Mais il y a cette espèce de truc, genre artistiquement, genre bon, Didamage, c'est
à part.
C'est une espèce de boule de feu là.
Ouais, c'est la face sombre du truc, quoi.
Ouais, non, mais ce qui n'exclut pas, une fois de temps en temps, tu sais, genre un instru, oh, je te fais un remix. Mais intégrer une écurie, ouais. Non, laisse béton. Ouais. Pas possible, c'est pas possible. Et puis voilà, c'était comme ça au début. Parce que je vous parle de Institutes et de Banger, mais il y a eu d'autres vagues avant, tu vois. Il y avait l'électronica française, il y avait les Active Suspension, Clapping Music, Goom Disc, Peter I'm Flying. Tous ces trucs, c'est la génération d'avant. On fricotait avec eux, mais on n'a jamais sorti de disque chez eux.
Ouais.
Et encore avant, on a commencé chez la musique électro en France. Alors là, c'est vieux, hein, tu vois. Genre, on est fin 90, début 2000. Mais les trucs électro qui n'étaient pas techno, c'est les trucs de gothique, tu vois, genre la musique post-industrielle. Et on était dans ces trucs-là aussi avec mon frère. Mais quand même, tous ces blancs-là, avec du maquillage, ils nous disaient « Oh, mais c'est bizarre, il y a des rythmes de hip-hop hein, dans votre musique. » Tu vois, il y a toujours un truc qui va pas, en fait, ouais. Tu vois. C'est quoi ce truc de groove que vous faites, là? Donc voilà, ouais, mais puis après, au bout d'un moment, on en a souffert. Et puis au bout d'un moment, et ça je le dis pas depuis que mon frère est mort, parce que non, sur genre les 10 dernières années de notre carrière, on le pensait déjà, en fait, on se dit mais putain, non c'est bien en fait, tu sais, c'est nous. Et puis au bout d'un moment, tu vois au bout de plusieurs années de carrière, tu vois les navires qui coulent. Et quand t'as un navire qui coule, tu vois, en général les artistes ils coulent avec.
Ouais.
Et tu sais, toi t'as ton petit truc, et puis tu t'es fait des abdos, et tu fais, non en fait ça va.
Ouais.
Ça va.
Finalement, ouais, c'est ok. On n'a pas pris la grosse vague du début, mais du coup, la vague, la déferlante s'est arrêtée alors que nous, on continue notre chemin. Ouais.
C'était un peu ça que tu souhaitais transmettre dans le bouquin, Sale Chien.
C'est ouais, un peu cette histoire aussi. Entre autres, ouais. Après, tu sais, il y a tout l'amour pour mon frère, enfin, tout l'amour qu'on avait l'un pour l'autre que j'ai voulu transmettre, parler des milieux de la musique indépendante, et puis même de manière plus perso, parce que c'est vrai, on peut le présenter sous cet aspect. Portrait des milieux de la musique indépendante. Mais dans la musique indépendante, on a eu nos histoires à nous, Fred et moi. C'est aussi ces histoires-là. Je veux pas. Enfin, mon livre n'est pas non plus représentatif à 100% des milieux de la musique indépendante. On a eu nos aventures à nous. Parce que quand t'as un dealer qui te regarde de traviole et qui te sort un couteau, en général, les gens tournent les talons et s'en vont. Et que mon frère, il était plutôt du genre à regarder encore plus méchamment et à sortir un couteau plus grand. Donc ça nous a donné nos histoires, donc ça n'arriverait pas à tout le monde.
C'est le côté Maison Alfort, ça.
C'est ça. Et pourquoi t'as choisi cette forme pour ce témoignage à tous les niveaux dont t'as parlé, un livre, la littérature?
Je l'ai choisi, en fait c'est vite dit, hein, parce que j'ai mis 10 ans à l'écrire, et au début c'était un journal intime, ensuite j'ai voulu faire une biographie, et progressivement ça a pris la forme d'un roman. Tu vois bien, je n'ai pas choisi, ça a pris la forme d'un roman. Parce que j'étais paumé, je savais pas trop comment faire, donc je pense que pour mon deuxième livre, ça ira beaucoup plus vite de l'écrire. Mais la forme s'est imposée d'elle-même parce que c'était le truc le plus logique. Même si certaines personnes m'ont dit « Ouais, mais c'est un roman, donc on peut pas savoir c'est quoi la vérité », il y a un truc, moi en tout cas, et là c'est les tripes, vraiment c'est les tripes qui parlent, c'est un pur truc de sentiment extrêmement, extrêmement subjectif, mais c'est un livre d'aventure, c'est un roman d'aventure. Notre vie, c'était une aventure. Donc, si j'avais écrit une bio exhaustive, j'aurais fait un livre plus laborieux à lire qui n'aurait pas retranscrit ce qu'on vivait au quotidien. Et là, il y a des gens qui me disent « Putain, j'ai l'impression d'être avec vous sur scène. J'ai l'impression d'être avec vous sur la route. J'ai l'impression qu'il y a mon frère qui est en train de parler. » Des gens qui me disent « J'ai l'impression qu'il y a ton frère qui est en train de me parler. » Là, je fais « Bah putain, j'ai réussi. » Et j'aurais pas
ce
pu avec une bio.
Ce que tu voulais transmettre,
ouais. Ouais, voilà.
Ouais, ouais, complètement.
Quelque part, c'est bizarre parce que le mensonge. Le romanesque implique du mensonge, tu vois, comme un scénario.
Oui, c'est normal. Ouais.
Mais le mensonge permet d'être plus dans la vérité,
paradoxalement,
dans les tripes, dans le ressenti.
Dans le ressenti, dans le vécu.
C'est très paradoxal, mais bon, là, on parle d'art, hein, tu vois.
Bien sûr. Et au-delà de la forme au roman, même la littérature, c'est parce qu'en fait, depuis longtemps, tu avais besoin de poser sur le papier des trucs qui t'habitaient, qui te marquaient. Tu parlais de journal intime, etc. Tu avais déjà un rapport à l'écriture, c'est ce que je veux dire, en fait.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Et tu t'es dit, tu t'es senti pas légitime, mais tu avais un regard sur. Parce que la littérature autour de la musique, il n'y a pas 3 milliards de trucs non plus. Alors, t'as plein de biographies de machins d'artistes qui racontent leur vie.
Pas
et
des
tout. Mais tu vois, dans l'univers de la musique, ou qui, etc., j'ai l'impression que c'est quand même moins courant. En tout cas, dans la littérature francophone, j'en connais pas beaucoup.
Bah, t'as quand même des pentes. Hein,
oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a de la musique, il y a une place, c'est vrai. Non, mais...
Ouais, il y a une part hyper importante de musique dans l'œuvre de Despentes. Mm-hmm. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi.
Tu t'es réfléchi à ça en amont, en disant...
Non, j'ai pas réfléchi à ça. J'avais une appréhension en me disant où est-ce qu'il va tomber ce bouquin, quoi. Est-ce qu'il va être dans le bac des bios ou le bac des romans? Aujourd'hui, je m'aperçois que les libraires font chacun comme ils veulent. Et en fait, c'est cool. Tu vois, la liberté, ça me plaît. Donc, y avait un côté un peu comme ça dans les premiers Didamège. Les mecs de la FNAC, ils savaient pas dans quel
bac vous mettre.
Ouais.
Donc, au final, c'est bien parce que ça suit le fonctionnement standard, en fait.
Ouais, et puis en plus, le truc, en fait, c'est qu'on parle quand même de carcan, là. Hein. Le truc le plus cool, en fait, que j'ai réalisé et qui fait le bonheur de mon éditrice. Hein. Et puis, d'ailleurs, le bonheur de beaucoup de gens. C'est qu'en fait, il y a un bouche à oreille de bâtard sur ce livre. Il y a un bouche à oreille de fou. Je reçois des messages de gens que je connais qui m'ont dit « Tiens, il y a machin qui m'a offert ton livre, mais la personne en question, elle, je la connais pas. Ouais. » Donc, il y a des inconnus qui offrent mon livre à des amis. Tu vois, c'est genre oh
« Est-ce que finalement, ça serait pas ça, ta voie vers le mainstream ? Est-ce que... Tu vois, vous êtes jamais devenu mainstream musicalement, mais peut-être qu'au niveau de l'écriture, en fait, c'est ce qui va t'ouvrir toutes les portes.
Je sais pas. Moi, j'ai fait un joli score pour un livre chez un éditeur indépendant.
Ouais.
J'ai fait un joli score de vente, mais on peut pas dire mainstream non plus à ce niveau-là.
Non, mais peut-être
que... mainstream si Jean-Michel Netflix me fait un chèque demain, tu vois. Mais on n'en est pas là.
Non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu peux te retrouver chez Trapnard. Tu peux...
Ouais. Mais, écoute, on verra. Bon, en tout cas, moi, j'ai la niaque et je crève d'envie d'en écrire un deuxième. Donc, on verra bien.
Et qui sera lié à la musique, certainement, ou pas ?
Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Je vais me détacher. Je parlerai encore moins de musique dans le troisième. Je sais pas, j'en suis pas là encore. Hein, mais
le fait que tu fermes pas la porte déjà à ça, c'est un signe.
Ah, surtout, j'ai encore plein de conneries à raconter.
Ouais, bah voilà, c'est ça.
Tu voulais voir d'autres trucs, Daz?
Non. Moi, juste une petite question par rapport à la formation musicale, s'il y en a une, en fait. Est-ce que, parce que tu te lances dans la musique avec ton frère, est-ce que vous étiez des icos, vous aviez fait du solfège, vous avez fait des trucs, ou vous êtes dit, j'ai envie de faire ça, let's go, et on apprend sur le tas
Alors, mon frère avait 5 ans de plus que moi.
Ouais.
Lui, c'est autodidacte.
D'accord.
Sampling, production hip-hop.
Okay.
Donc, on n'est pas
personne.
Du tout.
Non, belle personne. J'aime beaucoup.
Et moi, c'est vraiment rock, punk rock. J'ai commencé la batterie, la basse et ensuite la guitare. Et ce truc de malade mental qui est arrivé dans notre vie vers 94-95, le sample. J'ai rencontré un mec, on était super jeunes à l'époque, hein. J'ai rencontré un mec qui s'appelle Laurent de Soras, qui, par le biais d'un groupe de rock dans lequel j'avais fait une audition, ça n'avait pas fonctionné du tout, mais je suis resté pote avec lui, et il se trouve que ce mec était, il est encore programmeur informatique, et le mec me dit, vas-y, viens chez moi, je fais mes propres programmes d'informatique musicale. Et je vais chez lui, le mec a un Atari Falcon, donc ce qui est un peu la Rolls-Royce des Atari à l'époque, tu vois. Ouais. Tu connais
bien
le Falcon
sûr, Bien sûr.
et je pète un câble, mais néanmoins, voilà, il faut quand même avoir... C'est pas oui, GarageBand, tu vois, c'est... il faut savoir écrire des lignes de code et tout, c'est chaud. Et le mec, il me fait, tu viens chez moi régulièrement, je te donne des cours, je t'apprends à écrire les lignes de code, etc., etc. Le soir, je rentre. Bon, j'habitais chez mes parents avec mon frère. Je vais voir mon frère. Je fais « Attends, mais faut que tu viennes chez ce mec. C'est un truc de malade mental. » Le lendemain, on va chez lui. Et il se trouve que le mec Laurent travaillait sur un Soundtracker, qui était le logiciel pour faire la musique de jeux vidéo à l'époque. Et quelques années plus tard, en fait, il a monté sa boîte. Et sa boîte s'appelle Home Force. Et Home Force, c'est la putain de référence mondiale pour les plugins français.
D'accord.
Et ce mec, en fait, c'était notre mentor qui nous a vraiment appris à...
Vous êtes rentré dans la musique électronique par
grâce à lui.
Ouais,
bah, entré après, non... On écoutait, mais vraiment, t'avais une sensibilité.
C'est-à-dire
qu'au milieu des années 90, faire un sample, fallait acheter un Akai S1000 qui coûtait 10 000 francs. On pouvait pas.
Clairement.
Et soudain, avec un ordinateur à 3 000 francs, tu peux. Bon, c'était une autre période. D'ailleurs, je parle en francs. Voilà. Excuse-moi, c'était un long détour, mais je voulais en passer une sur Laurent de Soras parce que c'est le mec qui a ensuite créé Home Force. C'était une rencontre décisive qui a permis de créer D-Damage, tu vois.
Oui, c'est ça. Il est le catalyseur qui a permis de lancer le truc.
Tout à fait. Ouais. Et donc, il y a eu ce truc où moi, tu vois, je jouais de la guitare, de la basse, de la batterie. Mon frère, il était avec ses vinyles de Prince et de Funkadelic. Et soudain, en fait, grâce à cette rencontre, cet ordinateur que j'ai fini par acheter, on avait une marmite, quoi, tu sais, et on mettait tout dedans, tu vois, on s'enflait aussi bien mes riffs de guitare que Fred ramenait des breakbeats, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Mmh.
Après, sur le dernier détail que tu as demandé, non, pas de solfège, pas de conservatoire.
Autodidacte.
Ouais.
Multi-instrumentiste autodidacte. Ok.
Pas de conservatoire à Maison Alfort.
Peut-être un jour.
Et si jamais je peux en placer une sur Maison Alfort.
Bien sûr, vas-y. Volontiers. On est libre dans cette émission. Vas-y, vas-y.
Toutes mes amitiés à DJ Giro, double champion DMC, originaire de Maison Alfort, qui habite toujours Maison Alfort, et qui, grâce à l'aventure Tortue Ninja, qui a été menée par Liquide des Gourmets, Tarafa, DJ Giro de Maison Alfort s'est retrouvé disque jockey du Wu-Tang. Et c'est quand même un fait d'armes que je voulais célébrer avec vous.
Alors, figure-toi qu'on a prévu de recevoir la clique Kid Katana, donc qui s'est occupée de la bande originale du nouveau Tortue Ninja qui est sorti.
Donc vous allez développer, on va parler plus en détail.
Exactement, on va essayer de parler de ce projet musical avec même les gens de Dotemu, idéalement, on va voir. Bref, voilà. Mm. Parler un peu de la musique de ce jeu vidéo, effectivement, qui marche bien en plus.
Ah ouais, le jeu cartonne, la BO, elle est incroyable. Et alors, je suis dessus, moi, mais pas
avec Mike Patton, Mike Face No More.
Ouais. Ouais. Bon, après j'étais de bons conseils pour Tarafa. Enfin, on travaille vraiment les coups de serré lui et moi, hein. Mais vraiment quand on réfléchissait sur une personne invitée pour faire les scratchs, donc il fallait faire un hook avec les couplets de Raekwon et Ghostface. Et
c'est pas les pires en plus dans le Wu-Tang.
Ah ouais, c'est le haut du panier là. Hein.
C'est quand même, ça aurait pu être Hugo des Mastakila, donc félicitations.
Mais ils nous raconteront comment ils ont réussi à les choper parce que c'est
incroyable. Non, moi je voudrais surtout vous dire mon argument.
Ouais.
Quand Tarafa me demande mon avis, il me fait tu penserais à quelqu'un toi. Moi il me dit j'ai une idée en tête, mais je veux avoir ton avis. Le truc qui est génial, c'est qu'on avait la même idée, mais il me l'avait pas dit, tu vois. Et il me dit t'as une idée d'un mec pour faire les scratch. Et je lui ai dit mot pour mot. DJ Giro, Maison Alfort, s'il te plaît. En plus, il y a un truc qui est très rigolo, tu vois, c'est que chaque ville en France a son blason, son écusson avec l'emblème de la ville, tu sais, comme ces imbéciles de chevaliers là au Moyen-Âge, tu vois. Et que Maison Alfort, en fait, le blason, c'est une ruche avec des abeilles.
Ok.
Comme le Wu-Tang qui le bite.
Ah, la connexion, elle est naturelle, quoi.
C'est naturel. Putain, j'y avais jamais pensé.
Mais oui!
On a les Killabies.
Ouais, c'est genre, le destin, le mec tombe.
Incroyable. Les gars, arrêtons-nous sur sur ce super lien.
Maison Alfort.
Sur ce vaisseau à DJ Giro et à Maison Alfort.
Merci infiniment.
Bah, merci d'être venu. On le rappelle, sale chien, achetez le bouquin. C'est vachement bien.
Très, très cool.
Au-delà même de tout ce qu'on a raconté, c'est bien écrit en plus. Dans un style acerbe, un peu, tu vois.
Non, direct et tout.
Mais c'est très bien.
Ça se lit d'une traite.
C'est aux éditions Léo Cher que je n'aurai de cesse de renommer les éditions Léo Chien.
Et puis, écoutez aussi D-Damage, écoutez tes projets solo musicaux. Pourquoi pas aller voir tes expos aussi.
Non, demandons pas graphique. Trop. Bon, déjà, franchement, si ça a donné envie à certaines personnes de lire le livre, ça me fait intensément plaisir.
Eh bah, écoute, parfait. De toute façon, sur Internet, page Wikipédia, on retrouve à peu près tout ce que tu fais. Donc,
y compris l'aventure de Temu sur donc, les Tortues Ninja qu'on a évoqué.
Absolument.
Je sais pas si ça parle de la PC Engine, mais...
Non. Mais en fait, là, t'as ouvert un cliffhanger pour votre prochain épisode, donc je pense qu'il faut pas s'arrêter. C'est parfait, quoi.
Et bah Daz, merci aussi.
Merci, merci Salman, merci JB, c'était super cool. Comme d'hab.
Tu m'invites un jour à Maison Alfort pour que je vois à quoi ressemble vraiment. Alors on parle beaucoup de Maison Alfort.
C'est une ville, toutes les villes de France essayent de devenir Maison Alfort. Elles n'y arriveront pas. Paris a essayé, Paris n'a pas réussi.
Tu sais que Roger Troutman de Zap s'est inspiré de Maison Alfort pour écrire California. C'est complètement faux.
Oui, bah oui, je
l'ai rêvé. Pour moi, c'est vrai.
Pour moi, c'est vrai.
Pour moi aussi.
Bon, on remercie aussi évidemment la bouclette pour SO, le super taf technique. On remercie aussi, merci les gars. On remercie aussi Thomas de nous soutenir pour ce podcast. Il va y avoir un dernier petit épisode en août. Là, ça doit être, on doit être fin juillet à la diffusion de ce podcast. On revient pour un épisode en août. Après, on se prend une petite pause quand même. On va partir un peu en vacances, on va se reposer. Puis on reviendra méga chaud à la rentrée avec plein de gens, dont y compris, on espère, on parlera de cette BO de Tortue Ninja. Comment on bosse sur une BO de jeu vidéo, comment on chope le Wu-Tang. Je pense que ça sera stylé. Pour le prochain épisode, je vous réserve la surprise. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours.
Allez.
Ciao tout le monde.
Ciao.